Je voudrais commencer par relire ce qui était mon intuition de départ, qui était donc la proposition d'intervention que je voulais faire et qui est née d'un court texte, d'un court article que j'avais fait à la sortie du film que j'avais écrit pour les lettres françaises, où en voyant le film de Rivette, sans comme ça, de façon très intuitive, j'avais pensé à cette dimension de piraterie. Donc voilà la proposition que j'avais faite. Vous allez voir, malheureusement, qu'il y a sans doute un écart entre la promesse et ce que je vais vous livrer, mais voilà. Ne touchez pas l'âche. Donc avec Ne touchez pas l'âche, son avant-dernier film, Jacques Rivette se voit contraint de pirater au pied de la lettre un récit de Balzac, le deuxième volet d'Histoire des 13, pour pouvoir filmer deux acteurs d'élection, Guillaume Depardieu et Jeanne Balibar, et passer en contrebande sa manière flibustière de faire du cinéma. Louvoyant comme jamais il ne l'avait fait auparavant, au plus près des écueils de l'adaptation académique, et cherchant à transposer en termes cinématographiques l'écriture balzacienne dans toute sa plasticité, ses brusques ruptures et variations de rythme et d'intensité, Rivette s'amuse à éprouver la force impure du cinéma, jusqu'à donner l'illusion toute théâtrale que sa mise en scène pourrait se diluer dans l'océan des mots. Mais il n'en est rien, la mise en scène résiste au texte et le texte à la mise en scène, dans un mouvement d'abordage permanent qui fait de Ne touchez pas la hache à un film de pirate où, en compressant Balzac, Rivette fait du Stevenson. Donc voilà un petit peu ce que je m'étais promis de faire, et j'annonce déjà mon abordage va échouer. Je vais pas réussir à trouver le trésor dans le bateau que je vais essayer de pirater, entre guillemets. Je vais essayer de me poser quelques questions avant, plutôt générales, puisque la question de l'adaptation est celle qui nous intéresse. Le premier point, c'est Balzac et la Nouvelle Vague et Rivette. J'ai distingué un petit peu, puisque ce sont deux questions, deux approches un petit peu différentes. Dans la préface du roman de Balzac, qu'il avait fait, je crois que c'était en 1992, dans cette collection chez Poel qui s'appelle La Collection, qui est vraiment une très très belle collection, Éric Rohmer écrit « La génération de cinéastes à laquelle j'appartiens a été profondément marquée par Balzac, aussi par Balzac que moi-même et mes amis, qui nous prenions un peu pour les 13, connaissions presque tout entier par cœur. Cela dit, je serais très embarrassé de déceler, courant à travers les films de la Nouvelle Vague, le filon balzacien, comme on pourrait le faire à travers l'œuvre de Hitchcock ou de Bresson, par exemple, du filon dostoïevskien. Est-ce que, de l'univers de Balzac, au-delà des types et des situations, nous avons retenu que la musique? Je manque de recul pour répondre, et je dirais seulement que nous avons tous imaginé, au moins une fois, ce qu'aurait pu donner telle ou telle œuvre de Balzac portée à l'écran. Le seul qui ait mené à ce terme ce projet étant tout récemment Jacques Rivette, on est en 92, donc il venait de faire La Belle Noiseuse, de magnifique et personnelle façon, mais le chef-d'œuvre inconnu est exceptionnellement une histoire plus allégorique qu'authentiquement romanesque. Ce qui nous a arrêtés, ce n'est pas comme pour d'autres que nous nous trouvions en face d'une œuvre spécifiquement littéraire, mais l'inverse, si je puis dire, que la mise en scène y était déjà inscrite dans toute la force inventive de ses détails, le décor, les objets, les cadrages, les angles de prise de vue. Alors, à quoi bon recopier ? D'une certaine façon, si Balzac est présent, imprègne profondément l'œuvre des cinéastes de la Nouvelle Vague, hein, on pense par exemple, pour revenir à Rohmer, peut-être sans doute que la façon dont il a construit son œuvre comme une comédie humaine autour de scènes de la vie parisienne, scènes de la vie de province. Il y a bien sûr la construction de l'œuvre de Rohmer, une référence à Balzac. Bien sûr, on pense à François Truffaut qui fait référence, une référence très précise au Lys dans la vallée, dans Le Baiser volé, mais surtout dans dans les 400 coups, avec cette où on voit le jeune Antoine de Doinel lire La recherche de l'absolu et dresser au-dessus de son lit un autel où avec fête une foule où il fixe une photo de Balzac, il en vient même à faire brûler avec sa bougie l'autel, qui est une très très belle scène. Et puis juste après, il y a cette scène avec l'instituteur où il fait une dissertation et on lui reproche pratiquement d'avoir recopié une ténébreuse affaire de Balzac, alors que le jeune Doinel se défend en disant que c'était lui qui a tout de lui. Bien sûr, ce rapport, je dirais même au roman, des gens comme Godard et Chabrol, je dirais qu'ils sont plutôt du côté de Maupassant, et je dirais que Romère et Rivette étaient plutôt du côté de Balzac. Mais s'il y a une présence de Balzac, s'il y a une importance de Balzac que souligne Romère dans son texte, aucun des cinéastes, comme le rappelle Romère dans sa préface, ne s'est confronté directement à Balzac, n'a repris dans ses films ni les récits, ni les personnages de Balzac, à l'exception de Jacques Rivette, qui est d'une certaine façon le seul à s'être confronté à Balzac, à transformer cette fascination littéraire pour Balzac en œuvre cinématographique. La présence balzacienne, elle s'exprime de multiples façons, par des références, des citations, des emprunts, et on peut la trouver disséminée partout dans l'œuvre. Et bien évidemment, il y a quelque chose dans la façon dont se vivaient les jeunes Turcs comme une société secrète, et ça c'est très 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 présent avec leurs rites, leurs lieux de rencontre, leurs signes de reconnaissance. Même la rue dans laquelle étaient installés les Cahiers Cinéma était une rue qui est décrite par Balzac au début de Ferus. Donc il y a ce lien-là qui est très très fort, mais à part Balzac, aucun n'a essayé d'adapter, enfin à part Rivette, pardon, vous voyez, aucun n'a essayé d'adapter Balzac. Alors, Balzac, lui, Rivette, son rapport, voilà comment il raconte lui-même son rapport à Balzac. Il dit, au début des années 50, Éric Rohmer m'avait dit, quand on veut faire des films, il y a deux écrivains qu'il faut lire, Balzac et Dostoïevski. J'ai lu Dostoïevski tardivement, dit Rivette. Quant à Balzac, je l'ai découvert une nuit d'insomnie, en tombant sur une ténébreuse affaire. Ce roman m'a converti et m'a donné, pardon, la clé pour lire l'ensemble de l'œuvre. Donc, si sans entrer dans les détails, on peut dire que il y a trois œuvres importantes de Rivette qui ont une liaison directe à Balzac, et trois œuvres qui sont d'abord, d'une part, en 71, Out 1, qui est, j'insiste là-dessus, je reviens tout à l'heure, librement inspiré de la préface qu'a fait Balzac des trois récits qu'il a réunis sous le titre « L'histoire des 13 ». Mais ici, dans le film, les dialogues sont improvisés par les acteurs et il n'y a pas proprement parlé de scénario. Donc, il y a quand même cette présence de Balzac. Et d'une certaine façon, dans Out 1, il y a à la fois l'histoire des 13 de Balzac, et puis il y a aussi le texte de Lewis Carroll, la chasse au Snark. Et je dirais que c'est à partir de ces deux textes-là que se construit, qui est le fil d'Ariane de ce film Quête et Enquête, qui est Out 1. La deuxième, deuxième œuvre qui est balzacienne, entre guillemets, c'est celle en 1991, donc un an avant que Romère écrive son texte, qui est donc La Belle Noiseuse, qui est inspiré du chef-d'œuvre inconnu. Et dans ce texte-là, Rivet, décidément, s'inspire librement, et j'insiste sur le mot librement, du roman de Balzac. Il dit que l'idée lui était venue lorsqu'il réalisait La bande des quatre, et où déjà dans La bande des quatre, il y a une référence au chef-d'œuvre inconnu à Fraunhofer. Et puis, il a décidé d'une certaine façon de reprendre ce texte, de retravailler sur ce texte de Balzac. Mais là, il n'y a pas de fidélité au roman. Il n'y a pas cette volonté de fidélité au roman. Il opère un double transfert dans le temps, d'une part, puisqu'on n'est plus au XVIIe siècle, on est au XXe siècle. On passe d'une époque à l'autre, on passe d'un espace à l'autre, hein, puisque on n'est plus dans Paris, mais dans un château, dans le Midi. Et bien sûr, aux peintres historiques que sont Poussin, François d'Arbus, qui sont évoqués dans le roman, ils substituent un peintre anonyme, donc Nicolas, un chimiste. Donc, d'une certaine façon, le propos de Rivette n'était pas d'adapter la nouvelle, mais simplement de reprendre l'idée centrale pour questionner sur la création artistique et la recherche de l'absolu. Il y avait cette idée qui était présente, c'est-à-dire on n'adapte pas, on ne garde que l'idée centrale. Et puis la dernière œuvre sur laquelle je reviendrai, puisque c'est l'enjeu de mon intervention, c'est bien sûr le film Ne touchez pas la hache, qui lui est. Et donc on voit une sorte de progression, si progression il y a, mais elle n'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est très très librement inspiré, on affirme d'une certaine façon sa relation dans le titre, et puis là, il reprend en 2006 La Duchesse de Langeais, sous le titre qui était le premier titre qu'a donné Balzac, Ne touchez pas l'âge. Donc vous voyez bien que, d'une certaine façon, la présence de Balzac dans l'œuvre de Rivette est à la fois continue, et elle est constante sur pratiquement des années 70 jusqu'à 2000. Et là, c'est une présence, je dirais, forte. Après, il y a des présences beaucoup plus subtiles que je n'ai pas évoquées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, celui qui était pour Rivette l'initiateur à Balzac, c'est Éric Rohmer. Rohmer qui lui a dit il y a tout dans Balzac. Je crois qu'il y a Roger Nimier qui disait il est inutile d'écrire des scénarios car tout est dans Balzac. Donc c'est un petit peu ce que dit Rohmer. Quand on veut faire des films, il y a deux écrivains, etc. Et c'est quand même par Rohmer que Rivette est venu à Balzac. Et dans Outwan, Rivette donne à Éric Rohmer le rôle d'un professeur spécialiste de Balzac. On le voyait déguisé avec sa barbe postiche et puis ses livres autour. Donc c'est Rohmer le professeur, enfin il était professeur, qui est mis en scène là. Je suis désolé, j'aurais dû vous montrer l'extrait. Et voilà ce que dit dans cette la leçon balzacienne que donne Rohmer dans Hôte 1. J'aime bien dans Balzac le complot, la conspiration, c'est pour moi le nœud. Certes, le complot on ne le trouve pas dans l'histoire de 13, on ne voit que des interventions furtives et passagères. Voilà du moins mon opinion. Quel est leur rôle? Leur rôle, c'est surtout dans La fille aux yeux d'or, un peu plus dans La duchesse de Langeais et davantage dans Ferragus. C'est un rôle pour nouer l'intrigue, mais l'organisation en tant que telle, elle n'est décrite que dans la préface générale, qui est celle regroupée sous le nom L'histoire des 13, et c'est cette préface qui a servi, qui était le moteur du film de Rivette, Out 1. Donc, il y a ce qui est aussi assez intéressant, c'est que pour reprendre la clé du rapport entre Rohmer, mais surtout Rivette à Balzac, c'est cette idée du complot. Hein. Alors le complot, c'est à la fois cette idée qui permet, pour reprendre le terme de Rohmer, de nouer l'intrigue, hein, même s'il est absent, je dirais, d'un point de vue de l'action, c'est ce comproc-là qui est une sorte de fil souterrain qui permet de nouer l'intrigue. Mais je dirais, le complot de façon plus générale, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a nourri la nouvelle vague. Hein, les cahiers se sont presque constitués en société secrète, en histoire de 13 à leur façon. Et d'une certaine façon, les jeunes turcs des cahiers se vivaient d'une certaine façon comme des napoléoniens luttant contre le régime de la restauration qui était le cinéma de qualité. Et cette dimension de complot, Rivette fait très souvent allusion à ça, parce que chez Rivette, c'est presque aussi une méthode de cinéma, c'est-à-dire qu'il pensait faire un film, c'est faire un complot. C'est à la fois faire un complot, c'est une société secrète, des gens qui sont réunis pour un projet qui est presque et qui est secret, et c'est aussi, c'est toujours une sorte d'attentat, c'est un coup qu'on fait contre le cinéma traditionnel. Donc il y a à la fois le fait de s'être vécu comme une société secrète, le fait que faire du cinéma, c'est déjà un acte de filibusterie, c'est un complot contre le cinéma traditionnel. Dans la fabrication du film, on met déjà en fomente en essayant de passer à travers, je dirais, les règles, les codes du cinéma traditionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est très aussi important. Et puis, bien sûr, faire un film, c'est avoir une équipe. Et on voit dans un film qui s'est fait malgré tout assez rapidement, comme Ne touchez pas la hache, l'idée de dire on fait un film et on rassemble autour de soi des fidèles, des gens de la société secrète avec lesquels on va pouvoir sortir ce film. C'est là aussi où l'adaptation, le choix du film est un art de la filibusterie avec toutes les personnes, Martin Arillac, Lubchansky, Bonizer, Laurent. Bon, j'aurais aimé, mais j'ai pas réussi. Moi, j'ai dit, faut que j'en trouve 13, mais là, pour le coup, c'était un peu, ça aurait été vraiment forcer la chose. Donc voilà, une équipe de film, c'est un complot et c'est complètement refermé sur soi. Donc c'est cette idée-là qui est au cœur de la relation entre Rivette et Balzac. La question que je voudrais essayer de traiter et qu'on a déjà commencé à aborder, c'est bien sûr il y a un lien très fort entre Rivette et Balzac, mais se pose la question de l'adaptation, c'est-à-dire on verra tout à l'heure le refus de l'adaptation jusqu'à un certain degré chez Rivette. Donc voilà, c'est la question de l'adaptation. Rivette a toujours évité, comme cet écueil, comme l'opéra qui évite ce rivage-là, de s'approcher trop près des dérives de l'adaptation. Et il y a plutôt toujours, il a utilisé notamment pour Ne touchez pas l'âge, le mot de compression à la César. Donc, je dirais que l'approche qui est celle de Rivette dans Ne touchez pas l'âge, hein, c'est à la fois entre compression et littéralité. Donc, c'est cette tension-là de la littéralité de l'œuvre, d'aborder l'œuvre sans la condenser, mais donc en cette littéralité, mais bien évidemment la reprise d'un texte de Balzac implique malgré tout une compression. Donc premier point que je voudrais évoquer, c'est le refus de l'adaptation chez Rivette. Et là je vais encore un petit peu plus large. Donc, il refuse ce mot-là. Et donc, le premier texte qu'il, entre guillemets, quand j'utilise le mot adapte, c'est entre guillemets qu'il adapte. Violaine en a parlé hier. C'est bien évidemment Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot. Alors, ce qui est très intéressant dans ne serait-ce que le titre, c'est-à-dire que dans le titre, c'est Suzanne Simonin. Vous avez le titre du roman de Diderot, et vous avez dans le titre, hein, c'est pas le Dracula de Coppola, c'est la religieuse de Denis Diderot, et ça fait partie du titre. Et voilà comment dès le début, le premier carton qui apparaît dans le film, c'est, et je vais garder ce terme-là, librement adapté, hein, donc qui est la première modalité d'adaptation chez Rivette, c'est le librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot portant le même titre. Ce film est une œuvre d'imagination. Alors, ce qui est drôle, parce que maintenant on peut dire les autres librement adaptés d'une œuvre d'un tel. ne portant pas le même titre ou ayant porté le même titre, mais etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis dans cette première expérience, la dimension de la littérature, c'est-à-dire le fait de s'affronter à la littérature et d'affirmer une relation directe, impure, frontale avec la littérature, elle se manifeste aussi, puisque à la fin du Violaine nous en a montré des extraits hier, à la fin, je dirais, du générique de la religieuse, on a le livre lui-même qui apparaît de façon matérielle, c'est-à-dire que la matérialité du livre de Diderot est présente dans le film de Rivette. Alors, ça c'est la première expérience. Alors je vous montre un truc qui est un peu encore pas très clair, mais je pense que ça demanderait à être travaillé. J'ai pris que huit exemples qui me semblent peut-être les plus clairs, mais comme l'œuvre de Rivette c'est immense, on s'y perd. C'est simplement pour tracer quelques pistes. Et je suis désolé là, on va voir les difficultés que j'ai eues à faire mon PowerPoint hier soir. Alors, j'ai mis en gras donc huit travaux, huit films de Rivette. Donc Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot. Voilà, le terme, je le reprends de Rivette. Hein, c'est librement inspiré. Out 1, c'est à partir de. À partir, et c'est les termes sont importants, librement inspiré, à partir d'eux, donc c'est de la préface de à l'histoire des 13, et bon, il y a autre chose, on en a parlé, mais Céline et Julie sont en bateau, et Diane en a parlé hier, et je trouve que c'est ce qu'elle a dit était très important, c'est à l'intérieur du film que la littérature est présente, et comme le disait Diane hier, c'est les personnages du film qui sont confrontés au texte littéraire, puisque l'œuvre littéraire est à l'intérieur de la fiction. Hein, c'est le sujet du film dans le film, qui me semble être aussi un cas de figure, et qui ce cas de figure-là, et Diane l'a très bien montré, c'est à mon avis peut-être le cas de figure très intéressant du rapport que Rivette peut entretenir avec la littérature. Et là, on n'est plus dans le cadre de l'adaptation, c'est pratiquement l'intégration et confronter les personnages, la fiction, à une autre fiction. Et là, j'ai pris par ordre chronologique. Vous avez Nos Rois en 1976, film de pirates, d'après la tragédie du Vengeur de Cyril Tourneur. Alors, je vous cache pas, je connais pas l'œuvre de ce dramaturge anglais, mais en gros, c'est d'après. Hurlevent, librement inspiré des premiers chapitres de l'œuvre du Hurlevent d'Emily Brontë. La Belle Noiseuse, librement inspirée du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Vous voyez la différence entre librement inspiré et d'après. Et puis, un film comme Va savoir, c'est plus Cazares, ou Lewis Carroll comme dans Céline et Julie Moratto. C'est le théâtre et l'œuvre de Luigi Pirandello, comme tu me veux. Et enfin, 2006, Ne touchez pas la hache, d'après la Duchesse de l'Angers. Mais entre le d'après de Nos Rois et le d'après, au sens entre guillemets, de la Duchesse de Ne touchez pas la hache, il y a des différences qui me semblent importantes. Et puis voilà, je vous donne le premier carton du film, c'est d'après, hein, à la fin du générique. Décidément, Rivette affirme cette dimension-là. Malgré tout, même si on peut l'inscrire dans le rapport à l'œuvre, Ne touchez pas l'âche constitue évidemment. On en a parlé hier lors de la projection du film, une exception dans l'œuvre de Rivette, une exception majeure, puisque jamais il n'a été aussi littéral dans son rapport à un texte littéraire, et je dirais jamais sa forme, sa mise en scène, son écriture n'a été aussi classique, et j'utilise pas le mot académique parce que c'est classique, mais quand je dis classique, dans ma bouche, c'est aussi un compliment, c'est pas de l'académisme, c'est classique au sens qu'il a porté pratiquement le classicisme à une épure, et d'une certaine façon, la modernité de Rivette rejoint le classicisme à ce moment-là, et ce que je trouve qui fait la grande force. Ça, c'est vraiment une œuvre très singulière dans le parcours de Rivette. Je voudrais revenir maintenant sur un petit point quand même sur les trois types d'adaptation que propose André Bazin dans son livre, dans son texte pour un cinéma mature, défense de l'adaptation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils ont dénoncé une certaine conception de l'adaptation telle qu'elle était pratiquée dans les années 40, les cinéastes de la nouvelle vague qui prônaient une politique des auteurs n'ont pas pour autant renoncé à s'inspirer des récits littéraires, et je dirais même que jamais, sans doute, le lien entre la littérature et le cinéma n'a été aussi fort. Mais leur pratique de l'adaptation est différente. Ils ne cherchent pas à dissimuler l'origine littéraire du récit. On l'a vu, Rivette, dès Suzanne Simonin, affirme cette origine littéraire. Et ils ne tentent pas de substituer aux épisodes considérés comme anti-cinématographiques ce qu'on appelait, et je mets entre guillemets, je reviens d'ailleurs, des équivalences visuelles. Il n'y a pas d'équivalence visuelle chez Rivette. Et deux films avaient montré la voie à ce type d'adaptation qui s'assume comme tel et qui se confronte sans détour au matériau littéraire. C'est bien sûr « Le silence de la mer » de Jean-Pierre Melville, et qui a été une adaptation très fidèle du texte de Vercors. Et puis, qui me semble moins réussi, mais « Le rideau cramoisi », l'adaptation de la nouvelle de Barbet d'Arlévy, adaptée par Alexandre Actruc, qui, évoquant son adaptation, parlait de filmer grandeur nature un texte. Hein, je trouve que ça aussi, ça correspond à cette idée on filmait de grandeur nature, c'est-à-dire filmer grandeur cinéma un texte littéraire. Et pour un cinéma impur, défense de l'adaptation, Bazin propose trois types d'adaptation. Le premier type d'adaptation, ça serait l'adaptation par équivalence qui transpose l'œuvre romanesque en recherchant des équivalences visuelles ou scénaristiques au récit littéraire. C'est en gros ce que les gens de la Nouvelle Vague reprochaient à Bost-Orange, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la symphonie pastorale, dans le Diable au corps, dans les adaptations que fait Autant Lara du Rouge et le Noir, c'est-à-dire qu'on condense plusieurs scènes, et de plusieurs scènes, plusieurs passages du roman sont condensés dans une même scène, et donc il y a cette idée de faire fusionner et de trouver des équivalents scénaristiques et visuels à des œuvres littéraires. Bien évidemment, c'est ce que refusent tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, et ce que refuse bien évidemment Rivette, et c'est pour ça que quand il refuse le mot d'adaptation, c'est ce type d'adaptation académique qu'il refuse. Le deuxième type d'adaptation serait l'adaptation libre, où l'original est surtout une source d'inspiration. Alors, et d'une certaine façon, ça correspond à tous ces films dont j'ai parlé, dont on peut dire qu'ils sont librement inspirés d'eux. Alors, l'inspiration, elle est plus ou moins libre, elle est plus ou moins proche, parce que ce qui m'étonne, par exemple, l'exemple que prend Bazin pour illustrer ses illustrations, adaptation libre, il prend, par exemple, Renoir, Partie de campagne, ou Madame Bovary, c'est inspiré d'eux, mais c'est quand même, je trouve que l'adaptation de Balzac, enfin de Beaupassant et l'adaptation de Flaubert sont quand même, sans entrer dans le jeu de la fidélité ou d'infidélité, sont quand même assez proches des textes. Alors donc le librement, il peut être, je veux dire, on est très loin de librement inspiré du chef-d'œuvre inconnu dans la Belle Noiseuse. C'est librement inspiré et transposé. Et puis, bien évidemment, le troisième cas de figure, c'est bien sûr celui que défend Bazin, c'est l'adaptation qui multiplie le roman par le cinéma. Alors, voilà ce qu'il dit, mais le journal d'un curé de campagne est encore autre chose, alors c'est à propos de Noir d'Enguerrin, sa dialectique de fidélité et de création se ramène en dernière analyse à une dialectique entre le cinéma et la littérature. Je pense que cette notion de dialectique entre le cinéma et la littérature, ou ce rapport, cette confrontation matérielle entre le cinéma et la littérature, c'est ce qui est aussi au travail chez Rivette. Il ne s'agit plus de traduire si librement, si intelligemment que ce soit, moins encore de s'inspirer librement avec un amoureux respect en vue d'un film qui double l'œuvre, mais de construire le roman par le cinéma. Construire le roman par le cinéma, une œuvre à l'état second. Non point un film comparable au roman ou digne de lui, mais un être esthétique nouveau qui est comme le roman multiplié par le cinéma. Ça, c'est un petit peu ce que défend Bazin, et d'une certaine façon, c'est dans cette tradition-là que s'inscrit la relation des gens de la Nouvelle Vague à la littérature et aux œuvres, entre guillemets, à adapter. Et bien évidemment, ce qu'il fallait absolument éviter, c'est cette recherche d'équivalence visuelle ou scénarique, ou bien sûr, ce qu'il fallait éviter, c'est ce principe dont parle Truffaut dans une certaine tendance du cinéma français, c'est ce principe de condensation. Et je mets bien l'accent là, quand je parle de compression, la compression, c'est le contraire de la condensation, hein. Et ça se joue à peu de choses. La tension ne se joue pas sur le même plan. Alors, on peut dire d'une certaine façon que Ne touchez pas l'âche va essayer de multiplier le roman, mais il essaye de multiplier le roman par compression et collage. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier. C'est comme l'explique Pascal Bonizer, comme l'expliquait aussi Rivette, c'est que en fin de compte, tout ce qui dans le roman de Balzac sur les considérations générales, sur la vie politique du Faubourg Saint-Germain, toutes ces considérations sur la situation politique à ce moment de la Restauration sont éliminées. Mais mais tous les fragments qui sont choisis, c'est des fragments qui restent, qui reprennent le texte dans sa littéralité. Et les transformations, s'il y a des transformations, ça peut être le passage d'un dialogue qui était au style indirect et qui est mis au style direct, mais il y a cette volonté de compresser. C'est une succession de fragments de blocs, hein. Cette idée de bloc est aussi importante chez Rivette. Ce sont des blocs scéniques, hein, qu'il reprend qu'il juxtapose. Et donc il y a à la fois cette idée de compression, on enlève, on garde les blocs, et bien évidemment ces blocs fonctionnent, sont juxtapés par collage. Et c'est ce travail de collage, de compression et de collage qui constitue le film. Le travail donc c'est vraiment cette caractéristique et cette volonté très forte de Rivette. Alors je précise aussi, puisqu'il y a non seulement c'est une œuvre d'exception, mais c'est aussi une œuvre de circonstances, hein, puisque ce projet-là qui est Ne touchez pas la Dache est un projet qui vient se substituer à un autre projet, un premier projet qui était écrit pour les deux mêmes acteurs un scénario original de science-fiction. Un petit anticipation quotidienne qui devait s'appeler non pas l'année dernière à Marienbad, mais l'année prochaine à Paris, qui, faute de soutien financier, puisqu'il n'avait pas obtenu l'avance sur recette, n'a pas pu être monté. Vous voyez, je crois qu'il devait avoir 79 ans, c'était une Rivette. Vous voyez, on peut se poser des questions faut vraiment être un pirate pour pouvoir faire des films, parce que donc, je crois qu'il n'y a eu aucune voie à l'avance sur recette pour le projet de Rivette. Et donc, je dirais la société secrète s'est réunie, ils ont monté un complot. Le complot, c'est de dire voilà, on a été refusé, mais on va faire un film quand même. On va faire un film avec les deux acteurs qu'on voulait faire. On va le faire en peu de temps, et il fallait absolument trouver un scénario. Et comme le disait Nimier, et comme le disait Romère, quand on cherche un scénario, Il suffit d'aller chercher dans la malle de Balzac, et comme cette malle au trésor, on trouve un scénario. C'est là qui est venu l'idée de d'adapter l'une. Ben, en plus, lors des 13, il en avait trois. Il a choisi celle-ci, et c'est ce jeu-là. Et puis d'autre part, autre élément circonstanciel qui fait que c'est une œuvre de circonstance et qui change, c'est que au moment même, au moment où il écrivait, où il réalisait ce film-là, je crois que Bolitzer était sur un film. Donc, contrairement à ce qui se passait avant, comme ce qui se passait pour la Belle Noiseuse, le scénario était écrit, travaillé, les dialogues pendant le tournage. Pour une des premières fois, le texte était par quelques petites scènes, et presque intégralement écrit avant le tournage. Donc, vous voyez, c'est que ça aussi, ça change complètement. Alors, ce que je dis là, dire le travail à l'aide, c'est quand même toute œuvre, comme disait Goethe, toute œuvre est une œuvre de circonstance. Et les grandes œuvres sont des œuvres de circonstance, et les chefs-d'œuvre sont souvent des circonstances. C'est une œuvre d'exception, exceptionnelle, mais c'est aussi, faut pas l'oublier, une œuvre de circonstance, et c'est les circonstances qui ont amené Rivette à se confronter directement. Peut-être il aurait fait un film beaucoup plus librement inspiré, mais c'est peut-être des circonstances qui l'ont amené à cette confrontation directe avec l'œuvre théâtrale. Donc, ce qui se joue ici, c'est bien évidemment la question du cinéma. Et je dirais que s'il y a une tension forte qui se dans le rapport, dans la médiation entre le cinéma et la littérature, cette tension forte, il faut voir comment Rivette essaye de comment il arrive à la gérer, à régler ce moment-là. Et comme souvent chez Rivette, et c'est pour ça que j'intitule une question de cinéma entre théâtre et roman, une fidélité à soi-même, c'est-à-dire que même s'il est très proche de l'œuvre de Balzac, même si, comme on le disait hier, c'est une question que j'avais posée à la fin de la projection, et c'est une question que je me pose, c'est-à-dire si on m'avait pas dit que c'était une œuvre de Rivette, si je tombe du ciel, j'arrive un jour et je vois, sans générique, je vois Ne touchez pas la hache, et là, c'est-à-dire, est-ce que j'aurais dit c'est un film de Rivette? Pour être tout à fait sincère, j'en suis pas sûr. Et je trouve que ce film sublime, hein, mais c'est une question que je me pose. Et donc, ça c'est une question. Donc, pour régler ce rapport-là, comme souvent chez Rivette, on passe par le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre est chez Rivette une façon de... C'est par le théâtre qu'on retrouve la vérité du cinéma. C'est par le théâtre qu'on échappe à l'adaptation. Et bien évidemment, je crois que c'est Bazin qui disait que le théâtre était la vérité du cinéma. Ça, c'est une phrase qui se fait aussi, qu'il faudrait réfléchir. Mais ça, c'est cette idée-là. Et donc, qu'on ne trouve pas de Balzac, moins de Balzac chez Rivette, dans le film. Enfin, ce qu'on trouve pas, pardon, dans Balzac, c'est cette dimension, alors que le théâtre est important chez Balzac, on ne retrouve pas cette dimension théâtrale chez Balzac. C'est la médiation qu'a trouvé Rivette pour passer. Et alors qu'on la trouve un petit peu dans, je vais montrer quelques images, parce que c'est un film auquel on peut associer, et c'est intéressant ce que tu disais sur Violaine, sur la religieuse, c'est le lien entre l'ouverture de la religieuse, enfin de Suzanne Simonin, religieuse, et Touchez pas la hache. Donc là, voilà, ça c'est le début, pratiquement le premier plan de la religieuse. Vous avez la caméra qui avance, on tombe sur une grille de l'autre côté, et puis vous avez cette scène très forte que tu as montré, Violaine, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rideau, hein, une fermeture au rideau noir avec les grilles. Et vous voyez le rideau qui se tire, hein, c'est une sorte de rideau qui tombe, et on retrouve à peu près la même chose. Donc ça, c'est l'ouverture de cette dimension théâtrale. Vous voyez les rideaux qui sont là, et toujours très intéressant. J'ai pas pu le travailler, mais ça serait très intéressant de travailler sur les deux films que sont la religieuse, Suzanne Simonin, hein, et De toucher pas l'âge, le rapport entre la grille et le rideau. Il y a toujours et on retrouve cette association entre la notion de grille, la figure de la grille et la notion de rideau. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même type de violence. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, le rideau semble faire presque plus violence que la grille. Puisque la grille, on voit à travers, le rideau ça coupe. Donc vous avez, là pour le coup, c'est ce dispositif théâtral, on a l'impression qu'on est au début de du Carrosse d'Or, de Renoir. Et puis, vous voyez ce plan-là, qui rappelle bien évidemment le plan de la religieuse, le rideau qui se ferme, et puis face la grille, hein, très la scène sublime entre les justement la caméra, voilà ce qui est toujours, avec la caméra, elle ne passe pas de l'autre côté, elle reste toujours du côté de la grille, et puis de la même façon, on retrouve pratiquement le même plan que dans la religieuse, quand elle dit je vous ai menti, et que la religieuse tire le rideau, ce mouvement, hein, ce passage au noir. Et ce qui est assez, et ce que fait, j'aurais pas le temps d'en parler, et Diane va me le reprocher, parce qu'elle avait raison de me dire qu'il faudrait pratiquement, on pouvait faire tout un travail que sur les intertitres, hein. Et donc vous avez le rideau qui est tiré, sorte de fondu au noir, mais violent, hein, puisqu'on coupe. Pardon. 5 ans plus tard. Donc ce carton, 5 ans plus tôt à tout Paris, donc on revient, ça annonce le flashback, l'analepse littéraire, hein, chez Clara de Cerisy. Et le plan suivant, c'est une ouverture de rideau. Et là, cette dimension me semble très 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 intéressante, parce que d'une certaine façon, il y a deux formes de non, je peux encore donner d'extrait. J'ai peur de la nuit. Il y a deux formes de théâtralité. Il y a une sorte de théâtralité cellulaire, qui est celle, une sorte de théâtre religieux, et puis une théâtralité mondaine, et il y a un théâtre de chambre, et je dirais qu'il y a un théâtre d'ombre. Il y a trois formes de théâtralité dans Ne touchez pas à la hache, et ce qui est assez passionnant, et je vais vous montrer simplement quelques images, c'est que on a le théâtre dans toutes ses formes. Ce dispositif théâtral, il est repris. Vous avez donc le théâtre qui s'ouvre. Vous avez les gens qui viennent mettre en place le décor, hein, les lumières qu'on vient allumer. Et tout au long du film, on verra les gens vont se mettre en venir allumer les lumières. Donc là, il y a un moment où le film bascule. C'est le moment où ce n'est plus la duchesse de Langeais demande d'éclairer, je vous dis cette scène, mais c'est Montriveau qui appelle, qui s'appelle Julien, dit Julien, tu es d'éclairer, et c'est déjà un moment où, entre guillemets, il y a un changement de pouvoir. C'est-à-dire que celui qui met en scène, c'est plus la duchesse de Langeais, c'est Montriveau, et là, vous voyez, puis cette scène, vous voyez, noire, et puis là, sublime. La première apparition, et comme je dis toujours à mes étudiants, la première apparition d'un personnage, c'est des trucs qu'on ne peut pas rater. Je veux dire, il n'y a pas, on n'apparaît qu'une seule fois, une première fois dans un film. Donc, ça, c'est la première apparition, l'entrée en scène de la duchesse de Langeais. Donc, tout au long du travail, vous avez à la fois des acteurs, des entrées en scène, le décor, des spectateurs qui sont présents, qui jouent le rôle de spectateurs. Donc ce dispositif théâtral est très présent dans le film, notamment dans la première partie du film, hein, jusqu'à une heure autour d'une heure, jusqu'au moment de Ne touchez pas l'âge, il y a tout ce qui domine là. Et ce qui redouble ce dispositif théâtral, et c'est aussi associé, c'est, puisque non seulement vous avez la scène, mais vous avez la loge, vous avez le lieu où, et là l'importance des miroirs, où l'acteur se prépare avant d'entrer en scène. Et là, vous avez la duchesse de Langeais se préparant, choisissant ses robes avant son entrée en scène. Et puis, lors de la première entretien avec Montriveau chez elle, alors c'est une sorte de théâtre de, là pour le coup, c'est du théâtre de chambre, hein, dans le boudoir. Vous la voyez, vous souvenez cette scène où elle s'allonge sur le canapé, elle dit comme ça, non, je le mets d'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train de se regarder dans un miroir, hein, la façon dont elle va s'installer pour recevoir Montriveau. Et puis quand elle est prête, Julien va mettre la lumière, hein, ça, la lumière, et la scène peut commencer avec, je dirais, je prends cet exemple là parce que ça me permet de montrer en 10 secondes ce que j'aurais dû traiter en une heure, c'est-à-dire, voyez ici les deux choses qui sont très importantes, c'est, voyez, le côté droit, la raideur de Montriveau, hein, la ligne, lui qui marchera du côté de la ligne droite, la raideur, le boitement, le côté désaccordé, et puis la courbe que dessine le corps de Jeanne Balibar, hein, donc il y a alors deux figures c'est-à-dire la figure de la ligne droite, la figure de la raideur, et puis la souplesse, la ligne courbe, qui incarne le corps de la duchesse de Langeais. Et puis cette dimension théâtrale, j'ai pris ce plan simplement, c'est qu'en fin de compte, on voit l'opposition dont je parlais tout à l'heure entre les deux personnages. Vous avez Montriveau encadré dans une porte, lui toujours du côté du bois, le côté de la pierre, hein, qu'on voit tout à fait au début, et puis le petit voile derrière qui encadre le personnage de Jeanne Balibar, et on a pratiquement dans ce plan-là, sur le même plan, les deux univers, je dirais les deux imaginaires, et je dirais presque les deux univers plastiques qui opposent Montriveau et le personnage de la duchesse de Langeais, c'est-à-dire, voyez, tout ce qui est ligne droite, sombre, tout ce qui est plutôt dur, le bois, la pierre, hein, dans d'autres cas, et puis vous avez le voile, le rideau, toujours dans la mise en scène, cette dimension théâtrale qui accompagne, qui d'une certaine façon infuse la représentation du personnage de Jeanne Balibar. Ce qui aussi entre dans cette logique théâtrale, c'est évidemment, j'aurais pas le temps de le développer, c'est bien sûr tout ce jeu autour des miroirs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la théâtralité ou la mise à distance que propose la théâtralité, cette médiation que propose la théâtralité et qui n'est pas présente, dont ne parle pas Balzac, c'est bien évidemment ce jeu de miroir qui met à distance, et cette scène très très violente où on voit pratiquement l'opposition dans ce plan-là, où c'est un moment pratiquement presque une sorte de construction cubiste avec le miroir. C'est le moment où le personnage de la duchesse de Langeais, je dirais que le personnage qui se construit commence un petit peu à se déconstruire. Et le miroir participe aussi à cette déconstruction du personnage, dont les images se multiplient, et cette multiplication des images, c'est ce qui se passe, je dirais, dans la deuxième partie de la première partie du film, où on retrouve aussi dans cette logique-là. Et puis ce théâtre-là se termine par une sorte de théâtre d'ombre, on en parlait hier, et qui renvoie, on a l'impression qu'on se retrouve à la... Et là, pour le coup, je pense que c'est une référence, ou un souvenir, ou une réminiscence, à la règle du jeu. C'est quand on voit la scène de bal, où ils sont en train de danser, et là, c'est le début de la fin, puisque ce monde-là, c'est un monde qui est en train de finir. Les gens de la restauration, ce ne sont que des ombres, et c'est, pour le coup, c'est un théâtre d'ombre qui doit apparaître. Et puis, juste après, vous avez ce qui est le moment central du film, ce qui est sublime, on en parlait, ça donne la chair de poule, c'est voilà, acier contre acier, et ça me semble, voilà, c'est le moment, j'ai vérifié hier soir, parce que j'ai pensé à ça en voyant le film, et c'est pratiquement au milieu, quoi. Je veux dire, il y a le moment où il dit ne touchez pas la hache, c'est pratiquement au milieu du film, c'est le moment où le film bascule, le film se plie comme ça, vous avez le film là, et puis ça au milieu, ne touchez pas la hache, une heure, il reste encore, enfin, ça doit être 1h10, 1h5, et vous avez le même point. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de choses. Donc c'est à la fois alors cette question du théâtre, et bien évidemment quand il y a cette question du théâtre, c'est un film qui est traversé aussi par la présence des corps et des gestes des deux acteurs. J'ai un petit peu évoqué ça tout à l'heure, hein, c'est cette idée sublime de faire jouer ensemble Guillaume Depardieu et Jeanne Balibar, et je crois que tout le film là, et on voit bien que cette question de l'incarnation, la question des corps a toujours été essentielle chez Rivette, et c'est là aussi où il le multiplie par le théâtre, il le multiplie par cette rencontre qu'il fait entre les deux écorces. C'est un film traversé par la présence des corps, des gestes des deux acteurs. Je vais montrer une série d'images qui d'une certaine façon traduit le parcours corporel, on va dire, de Jeanne Balibar. Hein, qui là c'est sa première entrée en scène, là c'est ne touchez pas la hache, et là cette phrase là pour le coup c'est un intertitre qui est repris de Balzac, phrase sublime, hein, boulevard d'enfer, pour la dernière fois elle regarda Paris fumeux, bruyant, couvert de la rouge atmosphère produite par ses lumières. On a écrit ça au bouton. C'est fini, hein. Et puis, vous voyez, la fin. Et puis, comme toujours, c'est toujours intéressant de voir la dernière apparition, disparition du personnage vivant. Hein, c'est la, vous voyez, si on compare avec le premier plan. Regardez, on passe de là. De face, lumière. Et là, elle disparaît dans cette calèche, dans la nuit. Et ça ne sera plus qu'un corps à la fin. Et l'histoire de ce film-là, c'est aussi la deuxième partie, c'est la fin, une partie sur la corps, sur la disparition du corps, hein, du personnage. De la même façon, on pourrait le faire sur le personnage de Montriveau incarné par Guillaume Depardieu. Bien évidemment, le personnage de Balzac n'a pas ce problème à la jambe qu'a Guillaume Depardieu. Mais ça renforce en plus cette idée film de pirate, hein. Quand vous le voyez ici traverser, on a vraiment l'impression d'être dans un film de gauche, hein, qui traverse le film. Et puis là, c'est David qui m'a fait penser à ça. On l'a vu, c'est le moment où il descend, il sort, et il trébuche, hein. Donc il trébuche et on va voir boiter. Et cette scène déjà, il y a quelque chose sur l'échec entre guillemets qui est vraiment un très très beau passage. Ça, c'est le moment qui correspond à celui du toucher Palache, et quand il lui dit ça. Et puis, ça me permet de voir, vous avez vu, l'univers, l'espace, chez Montriveau, c'est un espace qui est pensé en termes de décor, style plutôt empire, hein, vous voyez, elle, c'était toutes des courbes, des fleurs, et puis chez Montriveau, c'est des carrés, donc il y a cette opposition plastique entre l'univers des deux personnages qui répond aussi à une opposition organique de la gestuelle. Et puis, le dernier plan de Montriveau, qui lui aussi, d'une certaine façon, s'efface. Mais je dirais, c'est presque un effacement cosmique, puisqu'il se passe dans le monde, et le dernier plan du film, c'est celui-ci. Et donc, vous avez ces deux, et l'histoire, c'est vraiment cette confrontation entre ces deux corps, entre ces deux univers plastiques, entre ces deux univers, entre ces deux physiologies, pour parler comme Balzac. Et puis, tout le film renvoie à ça. J'ai pas le temps, mais vous voyez le côté, la posture des corps, des gestes exagérés. Comment ? Des poses aggravées, voilà, je cherchais le terme, fatigué hier soir. Voilà, c'est ces poses aggravées qu'utilisaient dans La Belle Noiseuse, hein. Et là, vous avez aussi ces poses qu'on retrouve dans le film, là, c'est entre les deux personnages. Troisième moment qui me semble, et je vais terminer là-dessus, parce que j'ai parlé trop longtemps, c'est bien évidemment cette dimension théâtrale, elle est aussi elle est en tension avec cette dimension romanesque. C'est un film qui est romanesque. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai l'impression de voir un film d'action, presque un film de pirate. Et cette dimension romanesque, elle est portée par la concentration du temps, le resserrement du temps. Il y a des horloges partout dans le film, j'ai plus le temps. Et puis justement, le moment où tout bascule, c'est quand l'horloge s'arrête. Alors qu'en fin de compte, le temps ne fait que passer, les intertitres ne cessent de nous dire le passage du temps, hein, et ce temps, bizarrement, je pense, se désaccorde peu à peu, et puis ça s'arrête. Donc il y a cet effet, et on voit le dernier plan du film, on est dans un hors-temps, c'est-à-dire qu'on, d'un seul coup, on bascule, et c'est très beau aussi, parce que le cinéma, une narration, c'est la tension entre le temps vivant et le temps, et le travail de la mort dans le temps, et ça, je trouve que Rivette l'a très très bien rendu, et notamment à travers les intertitres. Et je voulais finir pour, d'une certaine façon, et si je retrouve mon texte, je vais finir par, comme j'ai commencé, avec donc vous voyez, le récit dessine des cercles d'enfermement, ça s'enferme de plus en plus, et puis le temps qui se détracte. Et puis je voudrais finir pour confirmer, même si j'ai pas réussi à vous le démontrer tout à fait, pour confirmer mon intuition de relation à Stevenson. Et j'ai trouvé ça, mais après avoir écrit l'article, c'est Romer qui parle de, pareil, dans la Rabouilleuse, il écrit, un autre écrivain, spécialiste s'il en est des duels, et là c'est un duel, c'est mieux que Sergio Leone, hein, c'est un duel entre deux personnages, spécialiste des duels et des morts violentes, et auquel personne n'a eu l'idée de comparer Balzac, donc je revendique le fait que je l'avais comparé avant de, c'est Robert Louis Stevenson. Dans Les Trafiquants d'épaves de Robert Louis Stevenson, le narrateur Loudon Dodds, étudiant à Paris, exprime sa joie d'habiter dans le quartier où vécurent les héros de la comédie humaine. Les Rastignac, les Marcas, les Lousteau, les Maxime de Trailles, ajoutant un peu plus loin, en se faisant probablement le porte-parole de l'auteur, que Balzac était son dieu, dit Stevenson, qui parle. Il n'est pas impossible de dresser un parallèle entre certaines situations de Stevenson et de Balzac, en l'occurrence celle de la Rabouilleuse et celle du Maître de Ballantré, film sublime, c'est pour moi un roman, un des plus beaux romans d'histoire de littérature, le Maître de Ballantré, aussi histoire de disparition, d'effacement, dont le sujet est une lutte fratricide. Il n'est pas interdit non plus de trouver des analogies entre les filibustiers aux gants jaunes de la comédie humaine, ces filibustiers, là, c'est pas aux gants jaunes, mais ceux qui disent étourdissant dans la fameuse scène, quand même, hein, et les forbans authentiques des trafiquants du trésor, surtout lorsque leur qualité de pirate se double de celle d'escroc. J'aurais trop fait terminer pour autre chose, mais voilà, j'arrêterai celle de pirate, se double, je dirais, de génie, parce que pour moi, je trouve que ce film-là, qui est Les Trafiquants des drogues, je trouve que c'est vraiment un film sublime et qui est un film magnifique. Voilà. Merci à tous.